RMC, les grandes gueules.
C'est un policier, un enfant de la République que l'on accueille. Abdoulaye Kanté, bonjour.
Bonjour, bonjour les grandes gueules.
Enfant de la République, mais enfant aussi du 32-16, Abdoulaye, parce qu'on a une histoire très particulière, les grandes gueules et toi. Tu nous appelais régulièrement au 32-16 dès qu'on faisait des sujets sécurité, etc. Et on prenait toujours, c'était toujours assez pertinent, ça faisait du débat. Et en partant de là, eh bien, t'as obtenu une notoriété, d'autres médias t'ont invité. Et puis aujourd'hui, il y a ce livre chez Fayard.
Bah écoute, ça a commencé, déjà merci pour l'invitation, parce que un peu d'émotion quand même, parce que ça fait 4 ans, c'était un fameux avril 2018, j'étais là
très bien.
Pour parler de mon métier, c'était cette fameuse semaine justement fonction publique en danger, donc du coup j'ai été sélectionné pour venir parler de ce métier-là, et après des appels au 32-16, et ensuite voilà, il y a eu, on va dire, l'avènement entre parenthèses médiatique, mais ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que parler d'un métier dont on est fier, en sortant de tous les clichés, les idées reçues, pour moi c'était une nécessité, en sortant du côté parole syndicale, parole institutionnelle, mais juste simplement parler d'un métier que, on va dire, qui est utile aux autres, au quotidien. Et c'était ça un peu ma motivation.
Pourquoi justement il y avait besoin d'entendre une parole qui ne soit pas justement syndicale pourquoi?
Ben parce que je pense que, comme tout métier, il y a souvent des idées reçues, des clichés, des choses où on n'a pas assez de recul.
Par exemple,
voilà, les policiers sont ultra violents, sont des racistes, etc. Donc je ne nie, comme je le dis dans mon livre, je ne nie aucune problématique dans ce métier-là. Mais je pense qu'aussi à l'échelle de nos interventions, parce que nous sommes 150 000 femmes et hommes qui sont là au quotidien des citoyens, 10 millions d'interventions par an, c'est vrai que des problématiques, il y en a. Mais après, il y a aussi un sens du métier qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire que merci en fait de parler de notre métier comme on le devrait. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir de toute cette espèce d'hystérisation des débats qu'il y a au quotidien et en plus avec les réseaux sociaux, donc c'est vrai que pour moi, j'ai pris cette initiative. Je remercie aussi Isabelle Saporta qui un jour m'a dit « Ouais, il faudrait que tu fasses un livre ». Je dis « Mais moi, je suis pas auteur, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive ?» Et après, ça s'est fait naturellement et je remercie.
Mais tu viens d'où, pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu es un enfant de... Parce que tu es enfant de la République. Tu es né où? Quel est ton parcours?
Faire le livre. Tout le monde ne l'a pas lu encore.
En fait, tout simplement, donc voilà, je suis Abdoulaye Kanté, donc je suis né en France, en banlieue parisienne. Et à mes 2 ans, mes parents sont rentrés au Mali. Donc j'ai vécu une dizaine d'années au Mali. Donc voilà, et avec, c'est pour ça que j'ai ma double culturalité qui m'est très chère. Et voilà, à mes 15 ans, je suis revenu en France. Donc après avoir voilà, passé le bac, je suis rentré dans la Marine nationale. Donc j'étais militaire, engagé. Et c'est de là déjà que j'ai eu cette envie déjà de servir, entre parenthèses, mon pays. Et après, donc j'ai passé mon concours.
Mais pourquoi policier?
Ben en fait, c'était dans la continuité de ce que je faisais. Donc, comme étant donné que je portais l'uniforme, j'étais sous les drapeaux. Donc, le métier qui se ressemblait un peu plus à ce que je faisais avant, ben c'était ça.
Justement, est-ce que tu ne crois pas que le renoncement au service militaire, au service national, ne constitue pas une des problématiques aujourd'hui pour nos jeunes dans le fait de s'identifier à la nation, de faire corps et de nourrir ce sentiment d'appartenance? Est-ce que ce ne serait pas une solution pour tous ces jeunes multirécidivistes de 18 ans qui n'appartiennent pas à la société française,
pas
ou qui en tout cas n'ont pas le sentiment.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que en France, en fait, on a ces débats, on va dire, sur l'identité, sur ce que c'est que la République. Et pour moi, ce qui est nécessaire, c'est que je pense que en fait, il faut valoriser ces jeunes-là et leur dire que vous êtes aussi des enfants de la République. C'est quoi? C'est que le sentiment d'égalité. Le service militaire, c'était quoi? C'est
ça, quelque chose comme ça.
Ça permettait de se dire que peu importe d'où vous venez, peu importe votre religion, peu importe votre couleur de peau, on est tous égal.
On a eu ce parcours-là tous les deux.
On l'a eu. Et c'est ça, en fait, moi, quand j'ai commencé, je le dis dans le livre aussi, c'est que quand je prends ce fameux train pour aller à Cherbourg, même pas à Hourtin, j'étais là, comme ça, j'étais tout seul, et je vois des personnes, on a tous le regard, on se dit, tiens, mais on se ressemble tous, mais on sait pas où on va, mais voilà, on savait qu'on allait, à la même destination. Et c'était là, on est arrivé, on était tous logés à la même enseigne.
Absolument.
Et c'est ça, en fait, qu'il faut aujourd'hui. C'est que, tant qu'il y a des inégalités et tout ça, l'égalité, c'est on est tous pareils et on doit servir un seul et même pays. C'est que ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui.
Qu'est-ce que t'aimes dans ton métier de flic?
Ce qui est, en fait, c'est être juste utile aux autres, protéger. C'est-à-dire que quand tu interviens, tu vas justement secourir, on va dire, une femme qui est violence intrafamiliale, ou juste un cambriolage, ou par exemple, quand tu interviens sur un accident de voie publique, toutes ces choses la population ne voit pas. Je dis souvent, en plus, que nous sommes des éponges de la société, que cette société ne veut pas voir. Parce que, et je vais peut-être rebondir, peut-être un peu de manière dramatique, aujourd'hui encore, on a un collègue à nous qui s'est suicidé.
Ouais,
donc je voudrais avoir une pensée pour sa famille. Et c'est vrai pour dire que voilà, c'est que il faut remettre aussi un peu.
Vous intervenez sur des choses toujours dramatiques que nous on n'a pas envie de voir.
Exactement.
L'accident de voiture avec des gens qui sont sur la chaussée morts.
Et c'est ça. La femme battue.
Et c'est pour ça que ce livre, en fait, en sortant vraiment de tous les carcans, vraiment, il est écrit, on va dire, avec une simplicité, juste pour dire remettre l'humain dans ce métier.
Exact.
Et redonner sens aussi à ce métier. Juste une petite chose, c'est que je reçois souvent, évidemment, des messages haineux, mais je m'intéresse beaucoup aux messages positifs. T'as des jeunes qui m'envoient des messages, qui me disent merci de nous avoir permis de parler de ce métier-là, et aussi de dire que ben voilà, nous sommes utiles aussi. Il y a des gens qui n'osent pas s'afficher.
Ils ont encore cette vision-là?
Yeah.
Malgré les suicides, là on a un policier qui est en cavale, qui a probablement tué sa femme, on a des suicides,
oui,
on a
mais...
les soi-disant violences institutionnelles.
Non, mais...
Est-ce que les jeunes qui viennent aujourd'hui, ils ont cette même motivation que celle que tu décris là, en dépit de tout ça?
Mais la motivation, j'ai envie de te dire, il faut aller leur donner. Parce que j'étais hier dans l'école de la deuxième chance à Creil. Je suis parti discuter avec des personnes, des jeunes, qui ont une hostilité envers la police, oui, et vers même l'institution en elle-même et même tout ce qui représente l'État. Mais moi, je pars du principe que avant la répression, pour moi, la meilleure arme, c'est le dialogue. Mmh. C'est-à-dire que va chercher les gamins, va leur expliquer que voilà comment nous, on travaille. Parce que si tu n'expliques pas tes actions, ben, tu seras forcément mal compris. Et après, de l'autre côté, ça
peut... Il y a énormément de similitudes, d'ailleurs, et on le voit dans ce livre en particulier, entre ce métier et les métiers de soignants. On est des professions qui sont amenées à voir des choses que personne ne voudrait voir, à vivre des situations que personne ne voudrait vivre. On est des métiers qui ne débranchent jamais. Parce que même quand t'as arrêté tes heures de médecin, t'es toujours médecin. Quand t'es rentré chez toi, que t'es policier, si tu tombes sur quelque chose, t'es toujours policier. Tu ne peux pas exprimer un mal-être parce que c'est mal vu par ta profession et toi, tu penses que c'est mal vu par ta profession. C'est la même chose en médecine. Tu es amené à avoir des taux de suicide qui sont extrêmement importants chez les policiers comme chez les médecins ou comme chez les soignants. Donc c'est des professions qui ont énormément de similitudes. Et son rôle à lui, c'est précisément d'expliquer qu'est-ce qu'est réellement cette profession, comment faire face à tout ça. Et il y a un proverbe là-dedans qui décrit dans son livre, qui est un proverbe africain, qui dit le jeune va plus vite mais le vieux connaît le chemin. En quelque sorte, son rôle à lui, c'est de montrer le chemin, quoi, aujourd'hui, et il le fait parfaitement dans le livre,
avec humilité et aussi juste la simple sincérité.
Cette humilité,
toi qui n'aimes pas les policiers, tu me l'as souvent dit.
Je ne vais pas répondre à ça. Moi, je n'aime pas les cons, tout domaine confondu.
C'est court parce qu'on a plein de questions à lui poser.
Vas-y.
Donc, tu vois cette position que tu as, je crois aussi que c'est la culture africaine que tu as acquis quand tu es rentré au Mali, où il y a beaucoup de sagesse, de calme, et c'est pas quelque chose qu'on retrouve en Occident. Et moi, je l'ai beaucoup eu au contact de Pape Diouf, paix à son âme, et là, je l'ai retrouvé en te disant...
Un grand homme.
Exactement. Vous avez quand même beaucoup de sagesse, plus que même les Nord-Africains comme nous, qui sommes sanguins, etc., etc. Et on sent cette sagesse, cet accompagnement. Et tu as, dans ton livre, réhumanisé ton métier, en fait. Parce que certes, vous avez des similitudes, sauf que la police est très mal vue par la population et pas les soignants. Et il a re-humanisé ça et il a dit que c'est... Moi, j'ai toujours été très... Autant je peux comprendre qu'être sauvé des gens par la voie médicale, c'est une vocation, mais j'ai toujours... Pourquoi vous avez envie de devenir flic, en fait? Vous êtes mal payé, vous êtes mal vu, etc., etc. Bon, ça a toujours été une vraie question que je me posais. Et souvent, quand je rencontre la police, je me dis, mais pourquoi vous faites ce métier au départ?
Non, mais
c'est
même une question. Parce que justement, si on fait ce métier pour l'argent, je pense que
c'est pas notre vocation. Et tu nous le réexpliques. Et c'est un livre pour moi de réconciliation, notamment avec la jeunesse, à qui on ne parle plus.
Justement, puisque tu parles de cette jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, Abdoulaye, tu penses qu'il faut repenser la police? Tu vois, on entend Jean-Luc Mélenchon dire, moi, si j'arrive au pouvoir, je supprime la BAC. Repenser la police dans son... Je prends ses patrouilles, dans ses interventions, est-ce qu'il faut remettre dans sa formation du bleu sur le terrain, mais plus dans le dialogue?
Je pense qu'il faut toujours prendre un peu de distance avec tout ce qui est les discours politiques, parce que ça a tendance à vraiment hystériser beaucoup les débats. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Il y a une transformation en cours, on va dire, dans la police nationale. Il y a eu, on va dire, une autocritique de fait, parce qu'effectivement, pour être mieux, si on y a des critiques, il faut savoir les entendre aussi. Et je pense que depuis une dizaine d'années, si on doit parler aussi par rapport aussi, il y a, on va dire, une vingtaine d'années, par rapport à la police est quand même un facteur vraiment de recrutement par rapport à tous ceux, les jeunes qui sont issus de l'immigration. Ça fait plus de 20 ans que la police est une des administrations qui recrute, on va dire, le plus des enfants qui sont issus d'immigration. Et cette problématique-là, c'est que ça montre aussi qu'il y a vraiment une volonté de vraiment insérer ces personnes qui sont issues de ces milieux, on va dire, entre parenthèses, défavorisés. C'est-à-dire que leur dire, vous êtes aussi ces personnes qui sont, vraiment dans cette société, qui doivent s'impliquer.
La force de ta parole aussi, c'est que tu ne fais pas bloc pour ta corporation et que tu ne nies pas qu'il y a des dysfonctionnements.
Bah, il n'est pas syndicalisé, il n'est pas politisé.
Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est une parole libre, exactement. Et c'est pour ça que ce livre est fort. C'est parce que tu ne nies pas qu'il peut y avoir des soucis.
Ce que disait David, justement pour vous dire, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé, ma hiérarchie me regardait comme ça, un peu, me dire, déjà d'une, c'était un peu à
l'ancien temps. C'est ça, parce que
humblement, je pense que j'ai cassé les codes de la communication police. Et que quand tu vois que de l'autre côté, il y a plein de collègues qui ont. Ça les a un peu libérés, on va dire. Mmh. Mais toujours en gardant cette espèce de devoir de réserve, tu peux très bien avoir ton opinion, mais aussi vraiment sans dénigrer ta hiérarchie. Et justement, on est une nouvelle génération de policiers. J'ai un collègue qui s'appelle Rida, qui lui est sur les réseaux sociaux, qui vraiment montre aussi ce métier. Nina Kebab que vous avez reçu, mais ça c'est autre chose. Après vous avez des gars comme Mathieu Vallet qui sont vraiment l'image de cette ascension sociale.
C'est une nouvelle génération.
C'est une nouvelle génération.
Oui, mais Abdoulaye, on est en pleine campagne présidentielle, donc il y a des propositions qui viennent de toutes parts pour améliorer la sécurité, la justice. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, une décision concrète pour améliorer les choses, selon ton vécu?
Il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense que là, en fait, avec ce qui se passe, généralement ce qui est en train d'arriver, le manque de moyens, donc qui est en train d'être pallié, on va dire avec le matériel qui arrivé avec les véhicules, les commissariats qui sont en train d'être rénovés. Mais souviens-toi, il y a 4 ans, je disais la même chose, c'est que la police, c'était quoi? C'était ce fameux mur blanc moisi sur lequel on met un pot de peinture et qui n'a jamais été traité en fond. Et là, on va dire qu'il est en train d'être traité, mais toujours, encore une fois, c'est en fin de quinquennat et on est toujours obligé.
Plus de bleu dans la rue, visible, ou est-ce qu'il faut rester sur cette politique d'intervention?
Mais c'est pas question de ça, c'est que mettre plus de bleu, la visibilité pour moi, c'est contre-productif. C'est que si tu mets plus de bleu, pourquoi faire? Si tu vas mettre dans tel secteur plus de bleu et dans d'autres endroits, il y a certains endroits qui seront démunis. Qu'est-ce qu'il faut? Une bonne répartition des moyens.
Il n'y a pas une bonne répartition là?
Il faut qu'il y ait une bonne répartition. Je prends un exemple, quand tu vas dans je pense que c'est ce qu'on appelle les BLPF, ce sont les brigades qui protection de la famille. Vous avez souvent dans certains commissariats, 2 collègues qui ont, on va dire, une centaine de dossiers. Je pense parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est les violences intrafamiliales. Et là, évidemment, il y a eu une réflexion de fait qui montre que voilà, il y a une amélioration dans ces.
Tu dis que ça va mieux quand même. Qu'aujourd'hui, ça va mieux. On a recruté.
Je peux pas dire que ça va mieux. Je dis simplement que il y a une amélioration, mais on va dire peut mieux faire. Mais comme d'habitude, c'est que tu sais, tous les 5 ans. Ça change toujours et voilà.
Il y a une féminisation.
Il y a des espèces de fantasmes aussi par rapport à la Seine-Saint-Denis. On l'a déjà vécu. On l'avait vécu ici avec Inch'Allah, le bouquin de Davé et l'homme qu'on avait ensemble véritablement démonté. J'entendais Éric Zemmour avant-hier qui disait, j'ai parlé à tous les policiers de la Seine-Saint-Denis pour un peu étayer les thèses qu'ils développaient. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Éric Zemmour a parlé aux policiers de la Seine-Saint-Denis? Et qu'est-ce que tu penses de ces thèses sur la ville, sur le département de Seine-Saint-Denis?
Alors, ce candidat, il a parlé à une partie des policiers, pas tous les policiers. Oui. Donc après, ce serait trop facile de dire que voilà, il connaît les problématiques de policiers. Je pense que comme tout candidat, oui, il s'en inquiète et tout, mais voilà, c'est toujours comme d'habitude, on est en période électorale, donc c'est quand même un peu le Père Noël, on doit faire sa liste de Père Noël, au Père Noël, et effectivement, on va vous promettre monts et merveilles, mais la réalité, c'est que tout ce qu'on veut, c'est que peu importe que ça soit de droite ou de gauche, la sécurité, c'est pas ça. Mmh. La sécurité, c'est juste pour les citoyens, donc on ait les moyens pour pouvoir intervenir de manière efficace à ceux dont ils ont besoin, c'est tout.
Et peut-être aussi de la prévention. Mais c'est aussi ça, la sécurité.
Mais la prévention, là, je pense aussi que c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de prévention.
La police de proximité, en fait.
Moi, je suis un enfant de la police de proximité parce que je l'ai connue. Et c'est vrai que c'était quelque chose de hyper ambitieux, mais par contre, les moyens. On peut dire que ça marche, mais si t'as pas les moyens qui vont avec, forcément, c'est un peu.
Qu'est-ce qu'il manquait à la police de proximité, alors? Qu'est-ce qui lui manquait?
Ben là, ce qu'on veut dire, les moyens humains,
très symboliquement, d'ailleurs, pour la police comme pour la gendarmerie. Moi, je suis dans le secteur rural, donc c'est plutôt gendarmerie. Moi, j'ai jamais compris qu'on mette les gendarmeries à l'extérieur des villages. Moi, j'ai connu une époque quand j'étais gosse où la gendarmerie était au centre du village. Ce qui veut dire que les gendarmes étaient au courant de tout. Là, on les met à l'extérieur, symboliquement, je n'ai jamais compris ce truc-là.
Parce qu'il y a plusieurs villages.
C'est la répartition, tu vois, donc c'est pour ça.
Parce qu'il y a plusieurs villages, parce que les gendarmes ne sont pas. Mais choisis quel village?
Abdoulaye, cette notoriété fait qu'aujourd'hui, tu es régulièrement insulté sur les réseaux sociaux. On te traite de nègre de service, de bounty, d'esclave aujourd'hui du pouvoir. Comment tu réagis à toutes ces insultes, à ce que tu reçois?
Alors, le truc, c'est que suis parti dans une école et une jeune m'a dit que pourquoi vous venez nous parler? Vous n'avez pas la légitimité de parler parce qu'en fait, on estime que ce sont les blancs qui doivent comprendre ce que l'on subit. Alors, moi, je dis, mais à un moment donné, pourquoi, en fait, on en arrive à ça? Si on se plaint, on va dire, de tout ce qui est le racisme et tout, et que nous-mêmes, on le subit, moi, je le dis, c'est que c'est vrai qu'il est arrivé que sur les interventions, on me traite vraiment des personnes, on va dire, entre parenthèses, de la même communauté que moi, de vendus. Comment ça se fait que tu interpelles un frère à toi, ou cette fameuse image de mon collègue qui s'est fait insulter lors d'une manifestation,
traite
de vendu et tout ça, etc. Donc, c'est vrai que ce qu'on appelle le racisme intracommunautaire, et que personne n'en parle, et que là, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus. On a fait même avec des collègues à moi, Linda Kebab, etc., une tribune dans Marianne pour dire que nous, enfants de l'immigration aussi, nous sommes aussi fiers d'être policiers, parce que certains nous pensent que nous sommes, on va dire, des pantins de l'État ou des trucs comme ça.
Alors, ça dit quelque chose quand même de la fracture qui existe entre ces jeunes issus d'immigration et la police, puisque quand ils voient un noir ou une arabe, ils estiment que c'est des traîtres qui ne sont pas dans le bon camp. Ouais. Donc en fait, ils parlent de camp, en fait. C'est de camp qui
c'est ça, mais pourquoi mettre un camp, en fait, alors qu'on n'est pas issu de. Il n'y a pas de camp à avoir, parce que quand vous êtes dans une police républicaine, ben voilà, vous servez tous les citoyens. Et c'est ça, en fait, qu'il faut combattre. C'est que quand vous avez des personnes qui vous renvoie à votre couleur de peau, et c'est ça que je dis aussi à nos jeunes, c'est que des deux côtés, des deux côtés, parce que j'en parle aussi souvent, je dis que à un moment donné, c'est que si vous attendez toujours qu'on vous renvoie à votre couleur de peau ou au lieu où vous habitez, vous n'avancerez jamais. Donc moi aussi, j'ai pas envie non plus de m'attribuer des souffrances que je n'ai pas connues. L'histoire, elle est ce qu'elle est, elle a existé, il faut la raconter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour notre génération, nos générations futures, leur dire ça existait, mais il faut plus que ça recommence.
Absolument.
Et c'est ça le but, en fait, de ce que je dis souvent, voilà.
Est-ce que les violences policières existent?
Mais oui.
Les violences illégitimes existent. Les violences illégitimes existent parce que nous avons le monopole de la violence. Ok. À partir du moment que on rentre dans le champ de légitimité, que quand vous, par exemple, vous avez un individu qui est menotté, qui ne représente plus aucun danger, et qui a un policier qui lui shoot, on va dire dans la tête, là c'est illégitime. Et effectivement, ils sont condamnés. Je les condamne fermement. Personne ne peut accepter qu'un policier, voilà.
La police est suffisamment contrôlée.
Elle est plus que contrôlée. C'est une des administrations les plus contrôlées. Et encore une fois, certains vont dire oui, mais que l'IGPN est une blanchisseuse à flics. Je leur dis non, parce que c'est une institution qui a assez crainte de la police. Et voilà. Après, on peut dire ce que l'on veut des décisions, mais au moins, voilà, on peut pas dire que les choses sont faites.
Est-ce que tu as un poids de responsabilité avec ton nouveau statut? Parce que c'est hallucinant. En 4 ans, comment je te vois à l'antenne là. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais cette
espèce, moi, je l'ai pas reconnu quand il était la façon dont
tu es à l'aise aujourd'hui. Est-ce que ça
crée, ministre
en plus
de
ton métier, de nouvelles responsabilités ou un poids particulier?
Non, tu sais, quand je fais ça, c'est vraiment, je ne gagne rien du tout. Je le fais vraiment par ma propre personne. Et ce qu'il y a, c'est que quand je prends la parole, c'est que j'essaye de toucher les personnes avec la sincérité. Et aussi, modestement être un facteur d'identification pour des jeunes qui ne veulent pas oser. Moi, mon but, c'est vraiment donner cette force, tirer les gens vers le bas, plutôt de sortir des messages, on va dire, victimaires, ou des messages qui sont tendus à dire, regardez, vous êtes des opprimés. Non, non, c'est bon. À un moment donné, vous avez cette possibilité d'être ici. Parce que voilà, en appelant peut-être des fois le 32-16 et tout, comme ça, vous
arrivez. Il n'y a pas de fatalité.
Il n'y a pas de
fatalité. On en parlait avant l'émission.
Pas de fatalité due au quartier ou à la couleur.
On en parlait avec l'émission, il a un message qui rejoint Kerry James, quoi. Qui est tiré les gens vers le haut, c'est tout à fait ça, quoi.
On n'est pas condamné à l'échec.
Moi, je me remets tout à fait dans les propos.
Merci Abdoulaye. Abdoulaye Kanté, le livre.
Je veux juste pour finir, je vais quand même saluer. Je vous remercie déjà les GG parce que, voilà, c'est un peu vous, un peu grâce à vous. Remercier Paul, Anaïs et tout ça. Et aussi l'ensemble de tous mes collègues, quand même, qui, vraiment tous les jours, malgré tout ce qui se passe, sont toujours là. Et voilà, n'hésitez pas, le 17, moncommissaire.fr, devenirpolicier.fr.
Policier, enfant de la République, livre aux éditions Fayard.
Merci Abdoulaye.
Merci Abdoulaye d'être passé par les grandes gueules.